Il est 8h en ce mercredi 22 avril, bonjour et bon matin. Alors que le soleil grimpe, les températures grimpent, peut-être que toi aussi tu grimpes à une échelle ou un escabeau.
Radio Chablais, suivez-nous.
Nous, on grimpe pour découvrir l'actualité du jour avec Ludovic Turin, bonjour.
Bonjour Johan, bonjour à tous. Le salon littéraire Littera Découverte revient à Saint-Maurice de vendredi à dimanche. Pour sa 17e édition, le Festival de Littérature Jeunesse propose durant 3 jours des animations, des expositions et des dédicaces sur les 3 sites de la manifestation. Le centre sportif, la médiathèque et la Gloriette. Cette édition a pour thème « Dans ma valise » qui était également celui du concours littéraire adressé aux enfants de 6 à 16 ans. Thème qui a inspiré 317 participants dont les textes sont ensuite passés au crible d'un jury. Morane Forma, responsable du concours littéraire de Littera Découverte.
Les 21 textes lauréats qui ont été choisis cette année sont publiés dans un livre et le livre sera remis le dimanche 26 avril aux gagnants. Donc lors d'une remise de prix, une vraie remise de prix de grand avec une comédienne qui sera là pour lire leurs textes et puis mettre leurs mots en voix en fait.
Des propos recueillis par Valérie Favre. Environ 5000 visiteurs sont attendus lors des 3 jours de la manifestation bisannuelle.
La première session inclusive au Grand Conseil Valaisan s'est tenue jeudi dernier.
Mise sur pied par le Bureau pour les droits des personnes en situation de handicap, cette rencontre cherchait à favoriser l'échange sur l'exercice des droits politiques. 2 thématiques ont été abordées, à savoir le droit de vote pour tous ainsi que la participation des personnes en situation de handicap au sein des partis politiques. Les participants ont travaillé en binôme. Un député accompagné d'une personne en situation de handicap. Viviane Béraud-Pignot, responsable du Bureau pour les droits des personnes en situation de handicap, revient sur l'origine de cette journée.
Pro-Infirmistes avait fait une enquête sur quels étaient les plus grands champs où il y avait encore des inégalités et les personnes avaient répondu en premier lieu les droits politiques. Donc on sent que c'est quelque chose de très important pour les personnes concernées. Et en 2024, lorsqu'il y a eu les journées nationales d'action, c'est le canton de Neuchâtel qui a fait une session inclusive au Grand Conseil. Et comme ça avait bien fonctionné, on est parti un peu sur ce modèle-là.
Des propos recueillis par Martine Wüstiner.
Cela ne fait que 3 ans que le public peut exploiter les outils d'intelligence artificielle pour créer des contenus.
Et déjà près de la moitié de la population suisse utilise l'IA générative. C'est ce que révèle hier une enquête de l'Office fédéral de la statistique sur l'usage d'Internet. 47% des personnes âgées de 16 à 74 ans ont déclaré avoir employé des applications d'IA générative au cours des 3 derniers mois. Mais cette utilisation varie en fonction des catégories de la population. Les précisions de notre correspondant correspondante à Berne, Marie Vieumier.
Les jeunes ont beaucoup plus recours à l'IA générative. Le taux d'utilisation bondit à 79% chez les 16-24 ans. Les personnes avec un niveau de formation supérieur et vivant en ville ont aussi tendance à exploiter davantage l'intelligence artificielle, de même que les salariés, les chômeurs et les individus en formation. 41% des utilisateurs d'IA générative le font dans un but privé, 34% dans un but professionnel. Et une fois les outils d'intelligence artificielle adoptés, ils sont exploités régulièrement. 36% des utilisateurs y ont recours tous les jours. Ces chiffres présagent que l'IA générative aura un impact économique et social profond, indique l'Office fédéral de la statistique, qui conclut que le défi d'une transformation numérique durable au bénéfice de toutes et tous sera d'autant plus grand.
La Suisse fait partie des pays européens où l'usage de l'IA générative est le plus répandu après la Norvège et le Danemark.
Le Conseil fédéral tient aujourd'hui sa séance extramuros à Estavayer-le-Lac.
Les 7 sages se réunissent au château de Chenaux avant une rencontre avec la population à midi. Choisie par le président de la Confédération Guy Parmelin, cette journée s'inscrit dans une tradition lancée en 2010 pour rapprocher le gouvernement des régions. Après la séance, un échange avec les habitants est prévu, suivi d'un repas avec les autorités fribourgeoises.
À l'étranger, Donald Trump annonçait hier prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre.
Et l'annonce a été faite alors que Washington et Téhéran divergeaient sur la fin de la trêve. Le président américain évoque des divisions au sommet du pouvoir iranien et agit à la demande du Pakistan en attendant une proposition de sortie de crise. Mais les États-Unis maintiennent le blocus naval dans le détroit d'Ormuz. De son côté, Téhéran menace de reprendre les frappes, faisant planer un risque sur l'approvisionnement pétrolier mondial. Et dans ce même contexte, le Royaume-Uni Royaume-Uni accueille dès aujourd'hui une trentaine de pays pour préparer une mission navale internationale dans le détroit d'Ormuz. Objectif, sécuriser la navigation et soutenir un cessez-le-feu durable. Menée conjointement avec la France, cette force se veut strictement défensive et ne serait déployée qu'une fois les conditions réunies. Ces discussions font suite au pourparlers de Paris, piloté par Keir Starmer et Emmanuel Macron. Les États-Unis et l'Iran, eux, n'ont pas participé aux discussions.
En basket, le BBC Montet-Chablais s'est à nouveau incliné de plus de 60 points hier soir.
Opposé à Fribourg dans l'acte 2 des quarts de finale de SB League, les Sangliers ont été battus 127-66 à la halle Saint-Léonard. Les Jaunes et Verts se retrouvent déjà dos au mur dans cette série, pour le moment à sens unique. L'acte 3 de samedi au Reposieux s'annonce qui plus est tout aussi difficile, indique le joueur montaisan Joachim Mertz.
C'est clair que ça va être difficile en plus, bah avec toutes les blessures, c'est pas une excuse qu'on perde de temps, mais on joue à 7 contre 12, un gros roster, du coup physiquement c'est clair que c'est compliqué, mais bah, samedi on va essayer de revenir et faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui en deuxième mi-temps.
Vous pouvez vous appuyer justement sur cette première mi-temps du jour pour briller à domicile, peut-être pour la dernière rencontre de la saison.
Oui, exactement. Il faut qu'on retienne toute la première mi-temps et puis qu'on se concentre encore plus sur la défense et moins sur l'attaque.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Le coup d'envoi de l'acte 3 entre Montet et Fribourg sera donné à 17h30 samedi au Reposieux. De la sphère orange, on passe au ballon rond. Au FC Sion, la prolongation de Didier Tolo pour 3 années supplémentaires annoncée hier en conférence de presse n'est pas seulement symbolique, elle a aussi des conséquences directes sur le mercato. Alors qu'en coulisses, le travail de recrutement bat son plein en vue du prochain exercice, la stabilité du club valaisan est un élément clé pour attirer de nouveaux joueurs. Le club sédunois se positionne désormais avec une ligne directrice claire, continuité, identité locale et projet solide. Un discours qui vise à rassurer les recrues potentiel et à renforcer la crédibilité du club sur le marché, comme nous le confirme Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion.
Ça fait déjà un moment que j'avais attaqué ce mercato, donc c'est clair que les joueurs que je vais attirer, je ne pouvais pas leur dire « écoutez, on est dans le doute avec l'entraîneur ». Donc les joueurs dont j'ai envie de voir avec le maillot du FC Sion l'année prochaine savaient déjà que Didier allait prolonger, parce qu'il faut arriver avec un projet complet. Je ne vais pas arriver vers un mec que je vais attirer chez moi en disant « écoute, on ne sait pas trop pour l'entraîneur ». Je peux pas, donc il faut vraiment que j'arrive avec du concret, avec du solide, avec une ligne claire, parce que comme vous le relevez, c'est aussi ce qui fait notre force. Donc aujourd'hui, il faut que j'utilise nos forces et puis pas des choses qui pourraient mettre des doutes ou péjorer par exemple quelque chose. Donc les joueurs que je voulais savaient déjà que Didier continuait.
Et sur le terrain, enfin, le FC Sion ne cache pas ses ambitions. À 5 journées de la fin du championnat, le club vise désormais une qualification européenne avec comme première échéance le déplacement au Stade Saint-Jacques pour y défier le FC Bâle dimanche à 14h. On reste en football pour terminer. Le Stade Lausanne-Ouchy passe à l'offensive après les débordements survenus samedi à la Pontaise lors de la demi-finale de Coupe de Suisse face à Grasshopper. Le club vaudois a déposé une plainte pénale. Dans un communiqué, le SLO dénonce des actes incompatibles avec les valeurs du football. Et évoque des faits graves, mise en danger de spectateurs, intrusion, déprédation, siège brûlé ou encore vol. De son côté, Grasshopper condamne aussi ses agissements et se dit prêt à engager des procédures contre les auteurs.